Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin? Merci beaucoup. Moi aussi. Plus ça va, c'est plus je suis content. J'ai l'impression que je commence à retrouver ma vigueur de jeunesse, mon amour d'antan lorsque je viens à l'église, parce que j'aime aller à l'église. C'est drôle, c'est une grâce, hein, d'aimer aller à l'église. Est-ce que le son est correct pour tout le monde? Ça va? Bon, j'ai pas besoin de crier, j'ai pas besoin. C'est beau. Ce matin, j'aimerais ça. C'est pas arrangé en passant. C'est vraiment, on a commencé le livre de Philippe, des Philippiens, et puis ça donne que on arrive un petit peu vers la fin de l'année avec la conclusion de ce livre-là. Moi, je vais faire une partie de la première conclusion, c'est-à-dire les versets 1 à 9 du chapitre 4, et je vais lire pour vous les 9 premiers versets. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Plaise à Dieu de bénir sa parole pour l'édification de nos âmes ce matin. Écoutez, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul, après avoir passé plusieurs années, on va dire plusieurs moments difficiles, et lorsqu'on arrive dans le contexte de ce texte, on croit comprendre, c'est pas on croit comprendre, historiquement il était en prison. Mais pourtant, il parle de réjouissance, il parle d'encouragement. Et ce matin, en introduisant même la conclusion de cette lettre, avec votre permission, je crois que j'aimerais ça, qu'on regarde rapidement ce que l'apôtre a essayé de mettre en exergue. Dans un premier temps, les versets 1 à 3 du quatrième chapitre, il a adressé quelques recommandations aux chrétiens de Philippe. Et il encourage les chrétiens à se réjouir et à prier. Les versets 4 à 7, en petit plan. Au verset 8 et 9, il lance un appel aux gens, leur demandant de s'attacher à tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, etc. Je tenterai de trouver un titre. J'ai passé plusieurs jours à regarder, à essayer de jouer pour voir si je pouvais être un petit peu... Si je pouvais être utile au texte, ça n'a pas fonctionné. Alors, je me suis contenté, vous allez m'excuser, c'est pas du plagiat, mais juste pour qu'on soit ensemble, Je tenterai d'intituler notre réflexion de ce matin « Le Seigneur est proche ». C'est le 5b du chapitre 4. Pour donner l'impression que j'étais utile, j'ajouterai deux petits mots. Le Seigneur est proche, défaite et victoire. Ce n'est pas un slogan politique. Ce n'est pas une nouvelle idéologie. Le Seigneur est proche. C'est ce qu'on va essayer de décliner dans les quelques minutes que nous sont concédées ce matin, à la veille d'une semaine pascale, semaine de nativité. Et chaque année, on se rend compte, tout le monde, croyant, non croyant, écoutez, on fête, c'est la frénésie. Mais je comprends que pour certains, ça peut être un cri de jugement. Alors, personne ne pourra dire que je n'ai pas entendu parce que c'est fini, le débat est clos. On a eu amplement de temps pour discuter, des dizaines, voire des milliers d'années, pour discuter de tout et de rien. Mais je ne comprends pas pourquoi l'apôtre, il est arrivé et puis il a dit, mais le Seigneur est proche. Pour ce matin, trois éléments et même quatre qui constitueraient notre réflexion. Dans un premier temps, j'aimerais savoir avec vous pourquoi il a tant insisté sur le mot « Seigneur ». En quelques versets, il l'aurait utilisé quatre fois dans ce chapitre-là. On va le définir très brièvement. C'est qui le Seigneur? De qui parle-t-il? Parce que chacun peut avoir son Seigneur, ou bien quelqu'un peut s'improviser Seigneur, comme la philosophie actuelle, le modernisme, l'humanisme, c'est un petit peu, écoute, t'es capable, on verra ça un petit peu. En un deuxième temps, je tenterai de voir avec vous l'implication, c'est-à-dire quelques observations. C'est quoi la réjouissance, le lien qui existe entre la réjouissance et la prière? Parce que généralement, lorsqu'on prie, on va dire c'est parce que ça ne va pas. Mais l'apôtre, dans un texte, il a fait mention de la prière, de réjouissance, il parle même d'action de grâce. Mais pour un non-croyant, action de grâce, c'est peut-être avoir une bonne dinde. Et quelles sont les caractéristiques de ces gens-là qui reçoivent le message en entendant que le Seigneur est proche? Pour certains, c'est un cri de victoire. Pour d'autres, c'est un cri de lamentation, c'est un cri de désespoir. Et pour d'autres encore, si on pouvait aller chercher un troisième élément, ce serait, le Seigneur, bof. Est-ce que c'est une nouvelle marque de produit? Est-ce que c'est ChatGPT qui a apporté quelque chose là? Peut-être, on ne sait pas, ou bien c'est le nouveau nom, le Seigneur est proche. On n'a pas besoin de perdre de temps avec ça. Par définition théologique, biblique, le Seigneur, c'est le Messie. Le Seigneur, c'est le berger. Le Seigneur, en un mot, c'est le rassembleur de son Église. On n'a pas besoin de discuter trop longtemps là-dessus. On dit qu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui dispose de d'autres personnes à son service. On pourrait en un mot dire un Seigneur, c'est quelqu'un qui dispose de la vie d'un autre. Ils sont à mes services. On peut dire aussi qu'un Seigneur, c'est quelqu'un qui dispose d'une chose. Ça, c'est, je l'utilise, je fais ce que je veux avec. Mais dans un contexte biblique, lorsqu'on parle du mot Seigneur, on parle de quelqu'un qui prend soin. Pas seulement un thérapeute, c'est plus que ça. Parce qu'un thérapeute a une date limite sur sa vie. nonobstant le bon service qu'il ou qu'elle peut rendre à la société ou à d'autres personnes. Mais dans le cas de notre Seigneur, c'est plus que ça. Ce n'est pas juste prendre soin pour un temps et puis on va continuer la vie. C'est plus que ça. Dans le cas, c'est un peu... Il est souverain. Le Seigneur de la Bible, c'est un Dieu qui est souverain. Il a le contrôle sur tout. Ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'a ni commencement, ni fin. L'apôtre Jean dit, et c'est même pas l'apôtre Jean, depuis dans l'Ancien Testament, on apprend que lui, il dit, « Je suis le grand Je suis. Je suis l'alpha, première lettre dans l'alphabet grec, c'est-à-dire je suis le début d'une chose et je suis la fin de cette chose. » Dans notre cas, on va l'appeler l'humanité, on va l'appeler la création. Mais on va dire, en un mot, le Seigneur est le début et la fin de tout. Il va un peu plus loin que nous, il a utilisé un langage philosophique. Si jamais vous avez la définition, vous m'aiderez un jour. 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Un jour est comme 1000 ans pour lui. C'est un langage, dans ma petite tête, j'ai rien compris là-dedans. Mais je tenterai de comprendre que on ne peut pas trouver son origine. On ne peut pas trouver sa fin. Donc, quelqu'un qui se présente devant lui comme un autre Seigneur, il doit avoir un problème. Isaïe chapitre 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Et j'aime la dernière partie, c'est ce qui me concerne. C'est lui qui nous sauve. Ce matin, vous pouvez enlever le « nous », c'est un nom inclusif, certes, mais vous pouvez dire « c'est lui qui me sauve ». L'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon législateur, l'Éternel est mon roi, l'Éternel est c'est lui qui me sauve. En d'autres termes, c'est pas quelqu'un qui a du sang royal. C'est pas quelqu'un sur le plan politique qu'on a organisé pour qu'il devienne roi. Il ne s'improvise pas Seigneur. C'est pas un groupe qui s'est organisé pour qu'il devienne roi. Il est, il le déclare. Je suis l'Éternel des armées. Et certains ajoutent l'Éternel des armées célestes. Tout l'univers est à son pouvoir. L'apôtre Pierre, dans un texte, il nous dit ce qui suit. 1 Timothée 6, verset 13 à 16. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre en sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois. Et le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dans le catéchisme de Heidelberger, que vous connaissez pour la plupart ici, à la question, pourquoi l'appelles-tu notre Seigneur? L'auteur de répondre, c'est parce qu'il nous a délivrés et rachetés, corps et âme, du péché et de toute la tyrannie du diable, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais avec son sang précieux, et ce, afin que nous lui appartenions. On n'est pas n'importe qui. il y a du sang qui a été versé pour que vous et moi, nous soyons ici ce matin en toute tranquillité dans notre esprit. La paix que nous avons, c'est une paix sociale. Ça, c'est organisé par les gouvernements, Dieu merci, qui font en sorte que ça aille bien et qu'on est en paix juste entre nous, en tant que peuple, en tant que citoyen. Mais la paix dans notre tête, pour que nous vivions en personne libre, en tout temps, et cela même dans les jours sombres, ça, c'est l'exclusivité de Dieu. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le père de famille. Ça, c'est le rassembleur. Ça, c'est le pourvoyeur. Que ça aille bien, que ça aille mal, il reste et demeure le Seigneur. Donc, on parle de la providence divine. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, là où il veut, parce qu'il n'a ni commencement ni temps. Le concept de temps est très humain. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Philippe de demeurer ferme. Un autre élément très important dans le texte pour moi, en introduction. Ce qu'on ne peut pas dire pour les rois de la terre. Deux raisons. C'est impossible. Le roi, il a peur parce qu'il pense que son fils ou quelqu'un d'autre va s'organiser pour prendre sa place. Il peut avoir la plus grande quiétude, l'inquiétude, dis-je, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et deuxièmement, humainement parlant, on ne peut pas dire qu'un roi, lorsque l'apôtre Paul dit aux chrétiens de rester ferme dans le Seigneur, plusieurs raisons. La deuxième raison pour laquelle un roi humain ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça à un roi humain, rester ferme dans le roi. Tu peux être solidaire à son parti politique, tu peux être solidaire à sa philosophie de vie, sa façon de gérer, etc. Mais tu ne peux pas être demeuré dans lui. On demeure seulement en Christ. Pourquoi? Parce qu'on peut mourir en lui. Et c'est ce qu'il veut, qu'on meure en Christ et qu'on ait une nouvelle vie. Ça, c'est Christ qui le donne. Ce n'est pas nous. Il n'y a aucune contribution humaine dans la vie chrétienne. Un croyant, là, quand je parle de la vie chrétienne, c'est l'aspect pratique. On peut toujours participer, faire des choses. Cette semaine, on l'a vu dans notre église. Une église unie, une église qui travaille ensemble pour qu'on soit tous ensemble. Gloire à Dieu! Mais on va un petit peu plus loin. Le Seigneur, ici, c'est pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Si Dieu avait voulu qu'on s'attache à un homme, eh bien, chaque personne ici, on ne passerait pas seulement pour les plus chanceux 9 mois au sein maternel, dans le sein de notre mère. On passerait peut-être nos 50 premières années dans le sein de notre mère. Je ne sais pas comment ça... Mais après 9 mois, le Seigneur s'arrange, semble-t-il, parfois plus ou moins 9 mois, on aime nos parents, on aime nos mères, mais on reste distinct. Mais on est dans le Seigneur. C'est un lien indissociable, inséparable. Rien, absolument rien, ne peut nous détacher. C'est lui qui nous attache avec lui. Et sachant cela, nous sommes en paix. Pourquoi l'apôtre insiste-t-il? Le Seigneur est proche. J'essaie de regarder, mais pourquoi? Un texte aussi intéressant, on est content de voir les caractéristiques de l'église de Philippe. Et puis tout d'un coup, il arrive avec cette phrase, une petite phrase, « Le Seigneur est proche. » Pour les incrédules, pour les mécréants, je ne veux pas dire le mot scélérat du haut de la chair, Mais pour les gens qui pensent qu'ils ont la réponse à tout, pour les gens qui pensent dominer les autres, maltraiter les autres, ad nauseam, pour les gens qui violent les enfants, qui violent les adultes, ou je ne sais pas quoi, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les tueurs, les buveurs de sang, ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur est proche. Pour les grands discoureurs, pour les gens qui n'ont rien à faire, pour les gens qui ont gaspillé tout leur temps, toutes les belles années que Dieu leur a données pour faire quelque chose pour être utile dans sa création, ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur est proche. Ce n'est pas un Seigneur inventé. Ce n'est pas un Seigneur imaginaire. C'est le Seigneur des armées célestes. Je perçois à travers ce texte, c'est comme un message prophétique. L'apôtre, en écrivant de voir tout ce que les Philippiens ont fait, tout ce que l'Église a fait, comme bien fait aux autres, une église bien adaptée, une église bien organisée, une église qui correspond aux exigences même d'une église biblique. Arrivé, il va dire, le Seigneur est proche. Deux choses. D'une part, comme église, continuez sur cette lancée. Continuez dans votre façon de faire. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez un 9.9 sur 10 comme église. Le point 1, l'apôtre l'a gardé juste à cause de deux sœurs dans l'église. On va le dire ainsi. Mais c'est parfait là, quand vous avez 90 et plus, c'est un A plus ça. Le prof, il corrige sévère, il a pris une petite partie, mais quand même, c'est une église qui est bonne, très bonne, à comparer à d'autres églises. Et j'aime regarder, dès que je reçois un texte, je regarde le ton. Quel est le ton utilisé par l'auteur dans ce texte-là? Et du début jusqu'à la fin, on voit l'apôtre Paul avec un cœur pastoral, un cœur aimant. Dans un premier temps, j'avais lu le premier chapitre et je me dis, est-ce que j'ai bien compris ce que l'apôtre a dit? À un moment donné, il dit, j'aurais aimé partir. J'ai paraphrase. Mais mon amour pour vous, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui a fait le choix entre le ciel, aller dans les bras de Dieu, mais pas amour pour vous. Je préfère rester, en d'autres termes, j'ai tellement à cœur votre délivrance, j'ai tellement à cœur votre salut. J'ai négocié quasiment, c'est une forme de négociation entre Dieu, entre l'apôtre et Dieu. C'est vrai que je te connais déjà, Dieu, je sais ce que tu es pour moi. Mais quand je vois ces gens-là, je peux pas partir pour que tout le monde ne te connaisse pas comme il faut parce que c'est le mandat dont je reçois de ta part. Je préfère y rester. Bien sûr, avec ta bénédiction. Ça, c'est l'amour au plus grand point. C'est ce que Jésus-Christ lui-même a fait. J'ai négocié mon ciel pour toi. Alors, pour les gens qui ne respectent pas Dieu, on va dire qu'ils s'amusent à cracher sur Dieu, excusez-moi l'expression. Ce n'est pas une bonne nouvelle de savoir que le Seigneur vient ou bien il est proche. C'est comme un message prophétique pour ceux qui se réclament platonistes. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. En janvier, on va recommencer. L'économie va prendre un petit coup. On va payer nos cartes de crédit. D'ici février, avant le 14, on va retourner la machine. On compte parce qu'il n'y a pas qu'à venir. On continue, on continue. L'église, c'est pour des gens qui ont un petit problème, des gens bizarres. C'est des gens qui sont influencés par les Américains, les Anglo d'Ontario. Mais pas pour nous. Ces gens-là, ils dérangent même s'ils ne font rien. Ils nous dérangent parce qu'ils parlent d'un Dieu. C'est pour cette raison qu'ils doivent parler de leur Dieu juste entre eux. Les modernistes, la course folle. On court, mais on ne sait pas après quoi. Ils mettent leur esprit dans leur réalisation. C'est moi. Mais c'est moi. Tous les discours reviennent à moi. De peu, de toute façon, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Mais en d'autres termes, c'est une forme de petit Dieu, des petits seigneurs. Mais il y a quelqu'un qui a résumé ça très facilement et je vais partager deux extraits avec vous. Et vous connaissez, peut-être vous avez déjà lu ce bon document pour les gens qui aiment philosopher, regarder un petit peu la théologie, ça vaut la peine de l'avoir. L'homme peut-il vivre sans Dieu, de Ravi Zacharias. Très, très intéressant. Je vais vous lire deux extraits, mais c'est surtout la partie qui m'intéresse, c'est par rapport au modernisme. C'est un poème d'un journaliste, Steve Turner, sur la pensée moderne. Je vais lire des extraits pour vous comme croyants. Nous croyons que l'homme est fondamentalement bon. C'est seulement son comportement qui laisse à désirer. C'est d'ailleurs la faute de la société. La société est imputable aux mauvaises conditions de vie. Les mauvaises conditions de vie sont imputables à la société. C'est la pensée de Jean-Jacques Rousseau, ça. Le deuxième extrait, c'est le suivant. Nous croyons que chacun doit trouver la vérité qui lui convient. La réalité s'adaptera en conséquence. Ici, on est d'emblée dans ce qu'on appelle le relativisme. En d'autres termes, pas de référence absolue. Chacun décide quand il veut, là où il veut. Et puis, quand c'est moi qui décide, bêtise, c'est un concept, c'est les chrétiens, c'est les évangéliques, les gens qui sont influencés par... Parce que bêtise n'existe pas, le mal n'existe pas, tout comme le bien. Je décide ce qui est bien, donc je peux dire, je ne veux pas entendre parler du mal. C'est comme aujourd'hui, c'est très difficile de dire à quelqu'un « bonjour » parce que tu ne sais pas si ça va retourner contre toi. Si la personne avait décidé de passer une mauvaise journée, puis tu oses le saluer, on ne sait pas. On doit être prudent aujourd'hui. C'est comme on marche plus que sur les œufs. On laisse les œufs marcher sur nous. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'événement du Seigneur est proche. Jacques chapitre 5, verset 8. C'est la fin de l'arrogance. C'est la fin de la provocation. Ça peut être perçu comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Le temps des grands discours, c'est terminé. Parce que le Seigneur est proche. Mais en même temps, ça peut être un message d'espoir. Mais j'aimerais continuer avec les gens qui ne connaissent pas Dieu pour un tel message. Parce que c'est un message qui est irrévocable, la décision est irrévocable. C'est fini, on a mis le saut final. Le Seigneur est proche. Le culte de Baal, vous vous rappelez dans Sophonie, chapitre 1er, c'est un livre à lire durant les vacances. Avant le 23, essayez de lire. Parce que nous avons quand même, Pasteur Gab, merci beaucoup pour le message du dimanche dernier. Merci pour hier soir, j'ai entendu un extrait. C'est le temps des fêtes. On va avoir beaucoup de choses à planifier, à organiser. C'est bon, il faut le faire. Mais en même temps, c'est le début d'une année qui va arriver. Vous allez programmer beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de résolutions. Mais chaque année, il y a des résolutions. Avez-vous pris le temps de voir ce que vous avez réalisé, ce que vous avez pensé faire en décembre 2022 pour 2023? Est-ce que vous avez tout réalisé? Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il ne nous prend pas par surprise. Tout ce que Dieu dit, tout ce que la Bible annonce, est bien organisé, c'est bien planifié, et il y a un temps. Même lorsque l'apôtre Paul va faire cette déclaration pour dire que le Seigneur est proche, c'est pas une déclaration au hasard, c'est pas une déclaration inventée. C'est parce que ça s'inscrit dans la marche encore du salut. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. On n'est pas sauvé par hasard. Dieu ne se lève pas un matin pour dire, ah bon, on fait le tour, on pige. Oh, toi, aïe, Félix. Non. 1000 ans avant Jésus-Christ, dans le psaume 22, c'était déjà annoncé. On va voir son application un petit peu, je crois, que dans Matthieu 26. Mais poursuivons juste rapidement avec Sophonie. Le Seigneur était tellement fâché contre les gens parce qu'ils avaient choisi d'offrir des cultes au Baal. Le Seigneur a en horreur lorsqu'on déplace l'objet de sa volonté vers autre chose. Et si vous voulez être l'ami du Seigneur, il faut apprendre à faire cette démarcation entre sa volonté et la vôtre et celle des hommes. Trois éléments. Il faut apprendre à établir vraiment, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans ma volonté? Ou bien je suis dans la volonté de quelqu'un d'autre? Parce que c'est facile aujourd'hui de se faire mener, pour ne pas dire malmener. Les pratiques de la religion cananéenne, les pratiques dégradantes, battaient son plein à Jérusalem. 2 Rois 21, 1, 9, Jérémie 7, 18, Jérémie 44, 17, 19. Dieu a mandaté le prophète Sophonie d'aller donner cet avertissement aux gens. La direction religieuse qu'a prise le peuple a déplu à Dieu au plus haut point. Et il a quand même pris le temps de lui témoigner son affection, ses miséricordes, sa compassion pour lui dire attention par cet avertissement. En d'autres termes, quelqu'un qui vous aime, il vous protège, il vous informe. Les gens d'aujourd'hui nous déforment par leur façon de nous contrôler, de nous amener à suivre leur agenda. Mais Dieu, par amour, il nous informe, il nous montre qu'on est sauvé, certes. Rien ne peut toucher notre salut. Il nous encourage à continuer à faire ce qui est bon dans son œuvre et il nous donne comment les faire. Et en même temps, avant même de punir, Dieu lance toujours des messages. Peut-être on veut choisir qui on veut entendre. On veut choisir le messager. Mais le Seigneur ne laisse jamais rien au hasard. Le Seigneur informe toujours parce que à son retour, il y a plusieurs années, on l'avait annoncé. Même Jean-Baptiste avait annoncé sa venue, il y était venu. Amen. Sophonie 1, 7 dit « Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Car, dit l'auteur, l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi les conviés. C'est pas moi qui m'invite, c'est Dieu qui choisit qui il veut comme convié. On a nos listes. On a déjà, mon oncle Intel, lui, s'il vient là, ouf, si cette femme-là va être là, oh là là, non, 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 non. Oh non, c'est une fête qu'on fait. Il faut faire attention. Un saint-tel va venir avec sa première conjointe, sa deuxième conjointe, sa troisième, sa quatrième. Il faut faire attention. Qu'est-ce qui attend les gens qui ne croient pas rapidement? Grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Jérémie 1,14. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le haut pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse. Verset 13 dit, leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils ont bâti des maisons qu'ils n'habiteront plus. On peut continuer cette phonie, mais pour moi, je ne dirai pas plus. C'est ce qui attend les gens qui refusent de marcher comme il faut avec le Dieu de l'univers. Pour avoir plus de détails, vous pouvez suivre le cours de M. Raté sur les prophètes. Je profite pour passer un petit pub quand même. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur bien-aimé. La locution conjonctive ici, c'est pourquoi, introduit une explication. En d'autres termes, compte tenu de tout ce que vous avez déjà entendu, compte tenu de ce que vous avez déjà écrit, il y a un lien, on va continuer. Il faut continuer la marche de la persévérance dans la sainteté, dans la communion fraternelle, dans la volonté de Dieu. Parce que sinon, c'est votre volonté que vous allez mettre en évidence. Il faut continuer dans le soutien des frères et sœurs, dans le besoin. Il les encourage à rester fermes. Le mot ferme ici a le sens de se tenir debout, être prêt. C'est comme un soldat. Je suis prêt à n'importe quel moment pour affronter l'ennemi. Avons-nous des ennemis aujourd'hui sur le plan spirituel? Il y en a qu'on voit, il y en a qu'on voit pas. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous avez à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Les esprits qui vous prennent en otage. Les esprits qui vous empêchent de persévérer dans la voie de Dieu. Vous ne les voyez pas. Les esprits qui prennent nos jeunes en otage, les empêchant d'avoir une idée complète sur Dieu. C'est-à-dire Dieu matin, Dieu à midi. Dieu, que ça aille bien. Et qu'ils n'entendent plus leurs parents, mais qu'ils entendent ce Dieu-là. On est omnibulé devant les vedettes, devant tous les grands de la terre, mais on oublie le grand Dieu, la plus grande vedette, il va venir, il le dit, il l'annonce. Dans notre salut, c'est clair qu'il y a une suite. On est content, on est bien, gloire à Dieu, on continue à faire ce qu'on a à faire comme église. Mais en même temps, on sait que cette église-là, il y avait une première personne. Il y avait plusieurs personnes avant nous. La maison où nous habitons en ce moment, il y avait beaucoup d'autres personnes là-dedans avant nous. Peut-être vous l'avez fait construire, mais ce terrain-là, il y avait d'autres personnes sur ce terrain avant vous. Le Seigneur est proche. C'est peut-être dans quelques heures, c'est peut-être dans quelques années, il est proche. Le Seigneur est proche, l'apôtre avait quand même pris le temps de restaurer, de rassurer les chrétiens malgré les chaînes, pour leur dire que le Seigneur est proche. L'évangile, c'est la seule et unique bonne nouvelle dont on a besoin aujourd'hui pour fonctionner comme il faut. Comblé en Jésus-Christ, il a rompu avec tout ce qui faisait de lui une personnalité importante. Vous connaissez Philippiens 3, Philippiens 2, je les ai considérés comme de la boue. Parce que j'ai trouvé l'essentiel. Et sachant que le Seigneur est proche, mon vieil homme est mort. C'est le nouvel homme. Tout, je meurs en Christ pour être ressuscité avec lui. Je ne fais pas partie de ceux-là qui crient Barabbas, Barabbas, qui scandait crucifiez-le, crucifiez-le. Méprisé et abandonné des hommes, Isaïe 53, on le connaît très bien, etc., etc. Mais l'apôtre est capable de se surpasser, d'oublier ses problèmes pour encourager les autres. Le verbe qu'on traduit par rester ferme, au aux chrétiens de Corinthe, 1 Corinthiens 16, verset 13, aux chrétiens de Galate, le même message, restez fermes, Galate 5, 1. Chrétiens de Thessalonique, 2 Thessaloniciens 2, 15, restez fermes, restez fermes, restez fermes. Pourquoi? Parce qu'il y a des jours qui sont mauvais, qui vont arriver. Si on n'est pas ferme dans le Seigneur, n'importe quel vent va nous bousculer, on va se débarquer. Notre salut reste, mais on ne sera pas un exemple pour les autres dans notre comportement. Mais il y a eu des faux frères aussi. En d'autres termes, pour vous qui connaissez Christ, qui êtes sur la bonne voie, restez à la brèche. Ne cédons pas un pouce aux ennemis de la croix. C'est le changement de valeur sociale. Peu importe ce qui arrive, restez ferme. Maladie, emprisonnement, gardons le cap sur celui qui nous a appelés au salut. Parce qu'il n'y a aucune trace de ténèbres en lui, c'est ce qu'il nous dit. Je suis l'Éternel des armées, c'est là mon nom. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, rapidement, quelles sont les caractéristiques de celui qui attend le Seigneur, de savoir ce message? Pour les croyants, c'est un message de réconfort, c'est un message de victoire, c'est un message d'espérance. Le Seigneur est proche. Réjouissez-vous même lorsque vous priez, même lorsque vous avez des sujets de prière. Pour vous, vous pensez qu'il n'y a aucune solution, vous ne voyez pas. Comme on dit l'expression, dans l'expression, la lumière au bout du tunnel, vous avez l'impression que tout s'éteint. Le Seigneur est proche. Redoublez d'ardeur, redoublez de conviction, redoublez de vigueur, reprenez vie, parce que vous êtes ressuscité. Si Christ est ressuscité, vous aussi vous êtes ressuscité. Vous n'êtes pas mort en lui pour rester dans le tombeau, et puis lui, il va vous laisser, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. On est ensemble. La bouche de Jésus, c'est notre bouche dans l'oreille du Père. Il prie pour nous. C'est ça notre réconfort comme croyant. Nos prières, qu'on a l'impression qu'ils restent juste à dépasser par le toit, c'est faux. C'est les esprits qu'on ne comprend pas qui mettent dans notre tête que ça ne va pas toujours. Est-ce que le Seigneur m'écoute? Il nous écoute tellement. Il prend notre prière. Il en met plus auprès du Père. C'est pour cette raison, parfois, les réponses viennent. On dit, mais là, je ne voyais pas du tout ça, moi. Parce que le Seigneur est proche. Il tient compte de ses enfants. Caractéristique de la personne qui entend le message que le Seigneur est proche. Il est uni avec Jésus-Christ. Deuxième caractéristique, il prie pour l'essentiel. Quand il prie, il cherche ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu demande? Matthieu chapitre 6. Que ton règne vienne. Je n'aurai pas le temps de développer. Pour chaque élément, on pourrait passer une année. Être uni à Christ dans l'évangile de Jean, qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'apôtre Paul, qu'est-ce que ça veut dire? La prière modèle, lorsque Dieu, Jésus-Christ lui-même, il a dit, quand vous priez, voilà ce que vous devez dire. Notre Père qui est dans les cieux, est-ce qu'il est un modèle? Oui. Jésus-Christ, vous voyez à chaque fois qu'il va prendre une décision, Père, je te rends grâce. L'apôtre Paul va nous dire, c'est avec des prières, des supplications et des actions de grâce. Prenez le temps entre nous de dire ce que Dieu a fait de bon pour vous au cours de la semaine. Venez les mercredis avec nous, venez les dimanches, dites-nous ce que le Seigneur a fait. Les jeunes, quand vous vous rencontrez les vendredis, dites ce que le Seigneur a fait de bon pour toi au cours de la semaine. Ça permet d'enrichir l'esprit du corps. Ça permet de dire que je ne suis pas seul. Ne restez pas chez vous. L'évangile à distance, c'est bon lorsqu'il y a problème. Mais l'évangile relationnel, l'évangile entre les humains, c'est très important de le vivre. Je parle d'église. Il répète, il n'est pas pris au dépourvu par sa venue. Au contraire, le chrétien qui attend, il l'espère, il soupire, il prie le Seigneur pour que son règne vienne, pour qu'il vienne. On est content parce que le Seigneur est proche. On n'a pas peur, nous. Ce n'est pas un message de désespoir. Ce n'est pas un cri de tribulation. Parce que le Seigneur vient. C'est le roi des rois. C'est mon sauveur. Mon amoureux vient. Le mariage. Je n'ai pas dormi parce que je sais qu'il vient. J'essaie de marcher pour voir c'est quel style, quel genre de veston je vais porter parce que mon Seigneur vient. Quel genre de robe que je vais porter, quel genre de chaussures que je vais porter, mon Sauveur vient. Et ce qui est bon dans tout ça, c'est même pas moi qui vais faire les dépenses. Waouh, tout est gratuit en lui. On doit être content, on doit être fier. Je me réjouis dans la prière. Je me réjouis devant les moments difficiles. Quand je tombe, et je sais qu'il y a une armée qui vous prend le relais pour me soutenir parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, je peux pas dormir. Le Seigneur est proche, je peux pas faire l'église en moi-même. Je suis. C'est nous parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche pour nous, c'est la célébration. L'église est vivante, l'église est contente. Il y a quelqu'un qui tombe, on continue, c'est le Seigneur est proche. On s'arrange, on planifie tout de notre existence en conséquence parce que le Seigneur est proche. On est unis avec lui, il prie pour que le règne de Dieu vienne, pour que sa volonté se fasse à travers ma vie et la vie des autres. Ça va bien pour moi, je prie que ça aille bien pour les autres parce que le Seigneur est proche. Que tout le monde organise sa vie, dit que c'est le pasteur Jeff souvent. Qu'on organise notre vie pour cette grande journée. L'essentiel a déjà été fait par Christ. Notre sanctification dépend de Christ. La justification totalement et 100% Christ. Mais notre sanctification, jouée par la justification, eh bien, le croyant a une responsabilité. C'est ce de dire que je fais ce que je veux. C'est pas vrai, le croyant ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il prie pour que le règne de Dieu vienne. Je termine avec ça. Pierre dit, si c'est toi, appelle-moi. Parce qu'on peut dire, le Seigneur proche, il y en a qui n'entendent pas. Jean-Baptiste, le grand prophète. Entre nous, là, vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Il va dire, j'ai entendu, mais il a dépêché deux disciples pour aller vérifier. Est-ce que c'est bien toi? Il faut avoir l'habitude de communiquer avec Dieu pour comprendre les affaires de Dieu, pour comprendre la voix de Dieu. Il faut avoir l'habitude de passer du temps avec Dieu pour comprendre, pour entendre. Parce que dire que le Seigneur est proche, il peut être proche et puis toi, tu n'es même pas au courant de ça. Il peut être proche et puis tu vas être en jugement. Mais pour le croyant, on n'est pas appelé pour être jugé parce que notre jugement est déjà prononcé. Le Seigneur est proche. En d'autres termes, mettons fin au péché dans nos vies. Le Seigneur est proche. Eh bien, je ne veux pas être pris par surprise parce qu'il m'a déjà annoncé, moi. Comme croyant, c'est réglé pour moi. Puisque c'est réglé, je prends ma vie au sérieux. Je prends la résolution de marcher avec Dieu comme un vrai chrétien. Je ne me déguise pas en chrétien. Seigneur, préserve-nous de nous déguiser en chrétien. L'apôtre Paul, verset 9, va dire, « Je suis l'exemple. » En d'autres termes, nonobstant tout ce que j'ai connu, je suis dans les chaînes. C'est pas évident, mais je vous écris quand même pour vous encourager pour tout ce que vous avez fait de bien. Vous êtes une église extraordinaire. Mais s'il vous plaît, Saint-Tiche et Evody, c'est vrai que c'est un détail, il y a un conflit entre vous. S'il vous plaît, réglez ça, s'il vous plaît. Mais il y a d'autres choses plus importantes. Puisque le Seigneur est proche,
on doit continuer à soutenir les frères. On doit continuer à prier les uns pour les autres. Je vous encourage à rester ferme dans les combats. Restez ferme dans la propagation de l'évangile de grâce. Quand les judaïsants veulent vous traumatiser par un évangile sans évangile, c'est-à-dire l'évangile plus quelque chose, l'évangile plus un petit peu de vous-même, il faut agir avec discernement. Discernement, ça veut donc dire disséquer le bien du mal. Discernement signifie ça, c'est de Dieu. Ça, c'est la référence. Ce n'est pas moi la référence. Ce n'est pas moi qui dicte l'agenda. Ce n'est pas ma planification qui va organiser ce que Dieu doit faire par jour. Mais c'est ce que Dieu décide qui doit s'accomplir. Et cela, il n'y a pas de temps. Par contre, il nous informe. Encourageons-nous les uns les autres. Donnons-nous la main. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et qu'il y ait, qu'on voit cet esprit au sein de l'Assemblée. Parce que le Seigneur est proche. Individuellement, cette fin d'année, où est-ce que vous êtes rendu dans votre bilan? Et c'est votre bilan qui va avoir un impact sur l'Église. Comment vous comptez marcher avec Dieu dès aujourd'hui? Le Seigneur est proche. Soyons sérieux en d'autres termes. On est déjà sur la bonne voie. On va faire confiance à Dieu, non à nous-mêmes, non à ce que mon voisin me dit, non à ce que les médias sociaux me disent ou d'autres médias, non à ce que mes vedettes me disent. Mais je vais juste tout simplement, Seigneur, donne-moi la sagesse d'apprendre à te faire confiance, toi, le seul vrai Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres voix qui me parlent. Seigneur, rends-moi comme Samuel. Le texte, oh j'aime le texte, il dit, Samuel n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Peut-être vous êtes comme Samuel, vous êtes comme moi. On n'a pas l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Mais on peut juste demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais que je t'entende, parce que je veux te suivre. Je ne veux pas passer à côté. Je ne veux pas vivre en ennemi de la croix. Je ne veux pas non plus vivre en faux frère, ni en faux sœur. Seigneur, fais grâce à ton Église. Apocalypse 22, versets 21, 20 et 21. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Il est très proche. Amen.